Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez tous les samedis Biotine entre 12h et 13h. Je m'appelle Jean-Noël, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de cette émission d'actualité scientifique que nous allons regarder, étudier, commenter pendant cette émission, pendant cette heure d'émission. Je vais y arriver, oh là là, je bafouille. Ça démarre mal, mes enfants. Quand ça démarre comme ça, c'est que ça va être compliqué tout au long de l'émission. J'en suis désolé, vous nous écoutez sur Graphite, sur le 94.9 pour ceux qui nous écoute sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Internet où vous avez la possibilité aussi de récupérer les podcasts de cette émission Biotine et de toutes les émissions, bien sûr. N'hésitez pas à pouvoir nous écouter où que vous soyez, quand vous le souhaitez. Et vous avez aussi la possibilité de suivre l'actualité de Graphite sur le site Internet, sur la page Facebook, sur Instagram. Bref, vous êtes totalement informé de ce qui se passe dans votre radio curieuse préférée. Nous sommes aujourd'hui le 10 février. Au niveau de l'éphéméride, il n'y a pas grand chose. Alors, comme on parle pas mal de, comment dire, d'intelligence artificielle depuis un certain temps, je trouvais intéressant de se souvenir que le 10 février 1996, c'était la victoire du champion du jeu d'échecs Garry Kasparov lors de sa première confrontation face à l'ordinateur Deep Blue. C'était en 1996. Certains s'en souviennent peut-être. Hein, ça fait déjà quoi? Ça fait une trentaine d'années. Ça fait peur d'apprendre ça. Mais voilà, une trentaine d'années, le 10 février 1996. En 2001, des astronautes de la navette spatiale Atlantis arrime le laboratoire scientifique Destiny à la Station Spatiale Internationale. C'était le 10 février. Naissance, le 10 février 1896, de Jakob Frenkel, physicien soviétique, spécialiste de la physique de la matière condensée. Il donne son nom au défaut de Frenkel. Je ne vais pas vous faire une thèse sur ce sujet-là, je vais vous épargner ça. Dites-vous tout simplement que ce physicien soviétique est né un 10 février. Décès le 10 février 1923 de William Conrad Röntgen. Ah, Röntgen, ça nous dit quelque chose. Il est physicien allemand, il fait une grande partie de sa scolarité aux Pays-Bas avant d'entrer à l'école polytechnique fédérale de Zurich. Et il découvre, Röntgen, qu'est-ce qu'il découvre? Bien sûr, les rayons X. C'était en 1895, ce qui lui vaut le premier prix Nobel de physique en 1901. Wilhelm Conrad Röntgen, physicien allemand. Il est mort le 10 février 1923 à Zurich. Au niveau de l'information, au niveau de l'information scientifique, il y a pas mal de choses. Alors, deux petits articles que l'on trouve notamment dans Science et Avenir. Le premier concerne l'intelligence artificielle et c'est assez intéressant. Luc Faritor est un étudiant en informatique de l'université de Nebraska-Lincoln aux États-Unis. Il a 21 ans. Il vient de relever l'un des plus grands défis archéologiques du siècle. C'était de déchiffrer les papyrus carbonisés d'Herculanum qui sont conservés dans de façon totalement entière, rendus illisible par l'éruption du Vésuve qui a enseveli la cité romaine d'Herculanum en 79 après Jésus-Christ, un peu comme sa voisine Pompéi. On connaît plus Pompéi, mais juste à côté, vous avez Herculanum qui a subi le même sort. Et donc, il y avait des papyrus qui se trouvaient à ce moment-là et qui ont été carbonisés avec l'éruption du Vésuve. Et donc, l'algorithme d'apprentissage automatique qu'il a mis au point a permis de détecter des lettres grecques sur plusieurs lignes d'un rouleau et de lire pour la première fois un mot entier qui signifie « pourpre » et un pas de géant qui pourrait permettre d'accéder enfin aux centaines de textes de la seule bibliothèque intacte de l'Antiquité gréco-romaine. Quand j'ai vu ces lettres, j'ai complètement paniqué, j'ai failli tomber à la renverse et pleurer, c'est ce qu'explique le jeune homme qui se rend compte qu'il a fait peut-être une découverte totalement extraordinaire. La prouesse a été accomplie dans le cadre d'une série de prix qui avait été lancée il y a quelques mois par le professeur d'informatique Brent Sales, qui était célèbre pour avoir lu un des manuscrits hébreux d'Ein Gedi en Israël, vieux de 1700 ans. Et lui et son équipe avaient passé des années à mettre au point des méthodes pour dérouler virtuellement les couches extrêmement fines des rouleaux. Et donc en juin, les chercheurs ont donné un grand coup d'accélérateur en publiant de nouvelles images de rouleaux aplanis. Parmi elles, un scan où les différences de texture entre papyrus et encre étaient plus prononcées qu'ailleurs, au point d'être visibles à l'œil nu. Et ces centaines de papyrus carbonisés ont été exhumés dans les années 1750 d'une villa appelée depuis la Villa des Papyrus. Ils étaient cuits par la chaleur des coulées destructrices et ces rouleaux n'ont pas été calcinés puisqu'ils n'ont jamais été au contact des flammes. C'est une chance que les chercheurs tentent depuis longtemps d'exploiter, même si divers essais d'écorçage ont réduit en poussière certains de ces inestimables trésors. Mais donc, du coup, voilà, sur ces papyrus rendus illisibles par l'éruption du Vésuve, eh bien, un mot complet a pu être déchiffré grâce à un algorithme. C'est une première et c'est totalement fascinant, bien évidemment. Autre information. Autre article que l'on trouve dans Science et Avenir concerne les émissions électromagnétiques à haute fréquence qui sont produites pour la téléphonie 5G. Et on nous explique que cela n'ont pas d'effet à court terme sur le fonctionnement du cerveau. C'est la conclusion d'une étude menée par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, l'INERIS. C'était en collaboration avec l'Institut du cerveau à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Le déploiement de la 5G, déjà effectué en Corée du Sud et toujours en cours en France, doit permettre de multiplier par 10 le débit d'informations transmises par les ondes et de rendre presque instantanée la communication entre objets connectés. Dans l'étude, il y a un champ électrique ambiant, mimant celui dû aux émetteurs de la 5G qui règne en milieu urbain coréen, qui n'a pas altéré les ondes cérébrales mesurées par électroencéphalographie chez des voisins qui étaient exposés durant 25 minutes. C'est la première fois qu'une telle vérification est faite pour la 5G. C'est ce que précise Bram Selmaoui, qui est chercheur à l'INERIS et qui a donc dirigé cette étude. Les scientifiques ils vont ainsi pouvoir effectuer des mesures des activités cardiaques, ainsi que des tests cognitifs et aussi sur la mémoire. Et en fait, en 2015, la même équipe avait montré que les ondes de 900 MHz de la 2G, à l'époque utilisée par les premiers smartphones, réduisaient l'amplitude des ondes cérébrales alpha, mais d'une manière qui restait sans conséquence. Et jusqu'à présent, les études des faits physiologiques de la 4G n'ont rien montré de notable. Et donc, pour la 5G, on peut s'attendre à moins d'effets car plus la fréquence des ondes est élevée, moins elle pénètre dans les tissus, c'est ce que précise le chercheur. Un effet cumulatif des différentes ondes ne semble pas non plus à craindre. Une autre étude qui a été menée cette fois en Suisse, a montré que l'intensité du champ électromagnétique n'avait pas changé en 10 ans, malgré une multiplication de près de 20 des quantités de données transmises. Donc pour les téléphones portables, la 5G ne devrait donc pas beaucoup changer la donne. Voilà, on en sait un petit peu plus sur les ondes de la 5G qui n'affectent pas le cerveau à court terme, nous dit-on dans cette étude. Et c'était donc un article de Science et Avenir. On va peut-être encore lire un autre article qu'il faudrait que je trouve assez rapidement parce qu'il y a tellement de choses. En fait, j'ai trop de choix, je sais jamais quoi choisir précisément pour essayer d'être assez, aborder différents sujets. C'est ça qui est intéressant aussi pour éviter d'avoir toujours des sujets soit compliqués, soit pas nécessairement intéressants ou qui aient un lien avec notre vie courante. Là, c'est un lien avec notre vie courante parce qu'on a tous conduit une voiture de nuit avec des voitures qui arrivent de l'autre côté et qui nous éblouissent avec leurs phares. Eh bien, ça va être quasiment fini avec l'arrivée de la technologie LED dans les phares de voitures. Alors, bien sûr, ça n'a pas fait que des heureux parce que c'est une puissance puissance plus élevée, une consommation moindre par rapport aux phares halogènes, et les conducteurs ont pu en réduire la taille, modifier la forme. Les constructeurs, pardon, ont pu réduire la taille et modifier la forme. Et donc, cet éclairage plus fort permet aux conducteurs de mieux voir la nuit. Tant mieux. Le problème, c'est qu'il a aussi tendance à éblouir les conducteurs qui arrivent en face. Et donc, les phares directionnels sont une solution partielle. Grâce à un ensemble de capteurs, eh bien, le faisceau lumineux est dévié pour suivre la trajectoire de la voiture. Toutefois, ce n'est pas encore suffisant. Et c'est pour cela que Nissan développe sa propre technique pour réduire l'éblouissement causé par ces phares. La firme crée des phares LED avec un faisceau asymétrique et une encoche anti-éblouissement pour bloquer la lumière au niveau des voitures qui arrivent en face. Ce genre de technique existait déjà avec les phares halogènes, mais il s'agit là d'une version un petit peu high-tech, on va dire. Et donc, nous utilisons la technologie Ray Tracing, qui est assistée par ordinateur, pour focaliser la lumière avec une précision extrême, ce qui élimine le besoin de réflecteurs et de projecteurs encombrants. C'est ce qu'a indiqué Brad Chisholm, qui est un ingénieur de l'équipe de Nissan. Alors, il y a une équipe feu, rétroviseur et essuie-glace. Donc, lui, il fait partie de cette équipe-là. Il explique « Nous avons la capacité de délimiter la zone de la voie de circulation en sens inverse, avec tout ce qui l'entoure étant lumineux et l'intérieur étant très sombre. » Et Nissan indique notamment que l'utilisation de capteurs et de caméras permet un réglage plus fin en temps réel et que ces phares passeront une batterie de 300 tests avant d'entrer en production. Mais bon, on aurait peut-être, avec ces nouveaux phares, la possibilité de bien voir sans éblouir les autres. Ça serait pas mal, effectivement, parce que franchement, parfois, sur des routes de campagne, c'est assez pénible. Allez, un peu de musique et on continuera à développer l'actualité scientifique sur l'antenne de Graphite.
Sensational soul.
C'était Soul Obsession, le nom du groupe Nation of Language sur l'antenne de Graphite. Je vous parlais de Herculanum et donc de ce papyrus qui a pu, une partie a pu être déchiffrée. Et du coup, ça m'a fait penser qu'il y avait cet article que j'avais vu concernant Rome, berceau de la République et de l'Empire romain, qui recèle de nombreux trésors archéologiques dont certains sont encore découverts aujourd'hui. Dans les ruines antiques du Mont Palatin et du Forum, il y a un vaste chantier de fouilles qui a permis de révéler au grand jour un habitat somptueux datant du 2e siècle avant Jésus-Christ. Cette maison romaine durant l'Antiquité, qu'on appelle Domus, était le foyer d'une éminente personnalité de la ville. Plusieurs artefacts et éléments de décor démontrent la fastueuse opulence des anciens habitants du lieu. Dans un communiqué publié le 12 décembre, le ministère de la Culture italien offre quelques détails sur ces impressionnants vestiges. Alors donc dans la Rome antique, il y a plusieurs types d'habitats qui émergent. La Domus, donc à l'instar de cette villa, est possédée par les citoyens les plus aisés de la cité. Si les archéologues notent des structures cossues et confortables, les villas sont implantées à l'extérieur des villes alors que les domus se trouvent dans l'enceinte. Et donc cette maison exhumée sur le mont Palatin, appelée Domus de la Vicus Tuscus, donc ce qui veut dire rue étrusque, elle présente toutefois des caractéristiques étonnantes. La salle principale, qui est un vaste lieu de réception que les historiens associent à une salle de banquet, eh bien cette salle est construite sous la forme d'une grotte. Les archéologues la désignent comme une specus aestivus, c'est-à-dire une grotte d'été. Construite sur plusieurs étages, eh bien la Domus a été bâtie sur plusieurs années. Tel que l'indique le journal Finestre sulla Arte, les portions les plus récentes datent de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et les archéologues ont constaté la présence de plusieurs terrasses et de jardins accolés à la propriété. Au mur, la pièce principale est ornée de divers éléments, des tuyaux et de la plomberie permettant d'acheminer de l'eau vers des bassins au rez-de-chaussée afin de rafraîchir les convives. Tant mieux. Comble du spectacle, une gigantesque fresque colorée habille l'une des façades de cette grotte d'été. D'un point de vue strictement architectural, eh bien, cette luxueuse demeure a de quoi déjà susciter l'émerveillement. Ses résidents semblaient porter une attention particulière à la décoration. Elle était désormais éclairée par les projecteurs. Eh bien, la grande fresque s'étend sur plusieurs mètres, composée de différentes pierres, de verre et de coquillages. La mosaïque dépeint une scène côtière avec la présence de navires dans un style un peu hellénistique. Plusieurs attributs tels qu'un trident viennent ajouter une connotation guerrière à l'ensemble. Selon le ministère de la Culture italien, la fresque pourrait représenter une conquête militaire. L'enquête ne fait que commencer pour essayer de retrouver l'identité du propriétaire de cette domus. Pour les historiens, il ne fait pas de doute qu'il était un aristocrate, bien sûr, possiblement membre du Sénat républicain. Le gouvernement a indiqué que les fouilles s'étendront durant les premiers mois de l'année 2024 au sein du parc archéologique du Colisée. Et une fois les recherches terminées, les officiels espèrent pouvoir rendre cette domus accessible au grand public. Mais voilà une luxueuse demeure antique découverte à côté du Colisée. Et c'est totalement fascinant. Voilà, et donc ça faisait le lien tu peux tout à l'heure avec Herculanum, bien sûr. Alors, autre article que je trouvais assez intéressant, parce qu'on n'en a quasiment jamais entendu parler, pourtant il pourrait bien avoir pris d'assaut nos pharmacies, avoir pris d'assaut nos pharmacies d'ici la fin de l'année, ce sont les médicaments biosimilaires. Sont un petit peu inconnus et ils pourraient générer d'énormes économies pour la sécurité sociale. Alors c'est quoi ? Tout d'abord, il s'agit de comprendre ce qui distingue le médicament conventionnel du médicament biologique et aussi distinguer le générique du biosimilaire. Alors les médicaments conventionnels sont dits à petites molécules et sont issus de réactions chimiques. Leurs ingrédients actifs sont tous les mêmes d'un comprimé à l'autre. Et lorsque le brevet d'un médicament expire, il y a d'autres compagnies qui peuvent copier la formule et produire des versions identiques de ce médicament, généralement moins coûteuses, et c'est ce qu'on appelle le médicament générique. De leur côté, les médicaments biologiques, les biomédicaments, sont des protéines fabriquées par des cellules vivantes. Ils sont donc plus coûteux et complexes à fabriquer que les médicaments en petites molécules. Et donc, pour fabriquer un biomédicament, il faut programmer les cellules pour qu'elles produisent une protéine spécifique. Et cette protéine spécifique, elle est ensuite isolée, purifiée et elle est mise sous forme pharmaceutique. Et quand le brevet d'un biomédicament expire, il y a d'autres compagnies qui ont la possibilité donc de fabriquer et de vendre des copies similaires à ce médicament dit de référence. Et ce sont donc cette fois les médicaments biosimilaires, c'est-à-dire qu'ils sont semblables mais pas identiques aux médicaments de référence et ne sont donc pas considérés comme des génétiques. Ils fonctionnent avec la même protéine et ont donc un effet similaire, mais ils présentent quelques différences attribuables au fait que ce sont des cellules vivantes, donc naturellement variables, et des différences peuvent également être dues aux conditions de production qui peuvent varier, ce qui arrive lorsque les fabricants du médicament de référence ne dévoilent pas ces conditions de façon précise. Alors, les biomédicaments et leurs biosimilaires ont un vaste champ d'application, notamment dans le traitement du cancer, de la sclérose en plaques ou encore de la polyarthrite rhumatoïde. L'avantage, en fait, des biosimilaires, ça réside dans leur coût 10 à 15 à 30% moins cher que celui des médicaments de référence. D'où l'intention du gouvernement, et ça a été présenté dans la stratégie nationale de santé, c'est d'atteindre un taux de 80% de pénétration des biosimilaires sur leur marché de référence d'ici 2022. Un objectif, bien sûr, qui est loin d'être atteint, mais remis sur le tapis avec l'examen du projet de budget de la Sécurité sociale en novembre dernier. Et donc, il y a eu un article qui a été énoncé au regard du potentiel d'économie importante pour l'assurance maladie que représentent les médicaments biosimilaires du fait de la différence de prix entre le médicament biologique de référence et ses biosimilaires, il convient d'envisager de nouvelles mesures permettant d'accélérer le recours aux médicaments biosimilaires. C'est ce qu'indique donc cet article 25 ter de l'amendement 596. Une position donc, qui devrait déboucher sur la mise sur le marché de plusieurs biosimilaires substituables en pharmacie. Ils ne sont pour l'instant que deux, alors qu'ils sont d'ores et déjà majoritaires dans les hôpitaux, avec un taux d'efficacité équivalent à celui des médicaments de référence et un encadrement très strict. Ce qui n'empêche pas certaines associations de patients de craindre le pire. S'il est troublé, le patient ne va plus prendre ses traitements correctement, il ne va plus se soigner, voire éventuellement ne plus prendre ses traitements du tout sans en informer son médecin, et ça peut avoir des effets sévères sur la santé. C'est ce que s'inquiète Marianne Rivière, qui est la présidente nationale de l'Association française du lupus et d'autres maladies auto-immunes. Au micro de France Info, reste que d'ici la fin de cette année, les nouveaux biosimilaires pourront être proposés par les pharmaciens en remplacement du biomédicament d'origine 2 ans après leur commercialisation. C'est ce qu'expliquent les Échos. En tout cas, d'après l'assurance maladie, cette mesure devrait permettre de générer à terme jusqu'à 100 millions d'euros d'économies. Alors, ça, bien sûr, c'est l'argument un peu imparable, parce que si on arrive à avoir 100 millions d'euros d'économies, bien évidemment, pour ces médicaments biosimilaires, ça pourrait être assez intéressant. Mais voilà, arrivera donc dans les pharmacies ces médicaments biosimilaires qui vont être assez... qui vont faire leur entrée fracassante. C'est un petit peu comme à l'époque, il y a quelques années, où étaient arrivés les fameux médicaments génériques. Et bien voilà, là, on est un petit peu dans le même ordre d'idées, bien évidemment. On va se faire plaisir avec Temple sur l'antenne de graphite, excusez-moi, à tout de suite. Exotico, c'était Temples sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informés de l'actualité scientifique. Nous allons continuer à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique en étant toujours en Italie. On va rester à Herculanum. Rome et maintenant la Sicile, hein, avec le réchauffement climatique et les épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents, il y a certaines îles qui se voient confrontées au problème de l'approvisionnement en eau potable. La Sicile est particulièrement concernée. L'augmentation croissante de la population de cette île ne fait d'ailleurs qu'aggraver le problème, alors que les aquifères peu profonds se tarissent peu à peu. Et face à cette situation, la recherche de réserves d'eau dites non conventionnelles devient une nécessité. Et c'est ainsi qu'une équipe de scientifiques, en analysant des données qui étaient originellement acquises pour la recherche d'hydrocarbures, eh bien, ils ont découvert un important réservoir souterrain sous les reliefs des monts Ibléens dans le sud-est de l'île. Plus de 17 km3 d'eau douce seraient ainsi stockés à une profondeur entre 800 et 2100 mètres au sein de roches carbonatées. Donc de l'eau fossile, car cet aquifère se serait vraisemblablement formé il y a environ 6 millions d'années lors de la crise messinienne qui a vu la Méditerranée, s'assécher brutalement. Le niveau marin aurait ainsi baissé de plus de 2 km, offrant la possibilité à de nombreux réservoirs d'eau douce de se former par infiltration des eaux de pluie sous l'actuel niveau de la mer. À la fin de la crise, la remise en eau rapide de la Méditerranée aurait en quelque sorte emprisonné cet aquifère par l'effet de pression de l'eau de mer. Cette découverte, présentée dans la revue Communications Earth and Environment, pourrait avoir d'importantes implications en matière de ressources potentielles en eau douce pour la Sicile, mais également pour d'autres régions méditerranéennes qui présentent les mêmes caractéristiques géologiques. Mais voilà, un énorme réservoir d'eau douce datant de 6 millions d'années découvert sous la Sicile. Eh bien, on va pouvoir en boire. Et c'est tant mieux. Une nouvelle étude du CNRS qui, cette fois, a été effectuée sur des fleurs près de Paris montre une évolution d'adaptation assez surprenante. Lorsqu'un maillon de la chaîne vient à disparaître, eh bien, il semblerait que la nature s'adapte. Et pourtant, le maillon en question est indispensable au cycle de la vie. Par conséquent, considéré comme irremplaçable. C'est un exemple d'adaptation surprenant qui a donc été découvert par des chercheurs français du CNRS. L'étude a été publiée dans la revue New Phytologist. Cette étude qui explique que les pensées des champs, ce sont des fleurs, leur espèce, le vrai nom, c'est Viola hervensis. Elles poussent près de Paris et elles produisent 20% de nectar en moins qu'il y a 20 ans. Elles sont également 10% plus petites qu'au début des années 2000 au même endroit. Et ces changements, en fait, sont directement liés à la disparition fulgurante des insectes en Île-de-France. Mais l'espèce semble décidée à se battre pour sa survie. Et comme il y a un manque d'insectes, eh bien, les poncées ont commencé à s'auto-polliniser. En clair, la plante se reproduit avec elle-même, ce qui avait très peu été observé avant dans cette espèce. Et le nombre d'auto-pollinisations a bondi de 27% en l'espace de 20 ans seulement. Il y a de nombreux exemples passés qui ont déjà montré que les plantes étaient capables de se transformer pour répondre à de nouveaux besoins. Des espèces végétales introduites dans des pays où les insectes n'étaient pas les mêmes que dans leur zone native, eh bien, ces espèces végétales ont effectué des transformations en quelques années pour pouvoir être pollinisées par d'autres types d'insectes, ou même des colibris ou des chauves-souris. Et donc cette nouvelle étude confirme le fait qu'une plante est capable de transformer des milliers d'années d'évolution en l'espace de 50 ans ou moins. Alors pas seulement pour s'adapter à une nouvelle pollinisation, mais pour s'adapter à un manque, cette fois, de pollinisation. Ce type de recherche a uniquement été effectué dans quelques zones spécifiques en Europe ou en Amérique du Nord, mais le processus d'adaptation pourrait en fait être beaucoup plus répandu que ce que l'on croit. Les auteurs de cette étude précisent que cette stratégie d'adaptation fonctionne sur le court terme, mais pas sur le long terme. De plus, en devenant de plus en plus petite et en produisant de moins en moins de nectar, eh bien, ces plantes offrent moins de nourriture aux insectes qui restent, eux. Et donc, il se produit alors une espèce de cercle vicieux. La disparition des insectes entraîne moins de nectar, et le fait qu'il y ait moins de nectar attire moins les insectes, et ainsi de suite. Les insectes disposent de moins de nourriture. Eux aussi deviennent alors de plus en plus petits et les populations disparaissent encore plus rapidement. Voilà où on en est avec ce changement de climat qui a un impact sur la biodiversité, on le sait. Rajouter à cela aussi toute une campagne de pesticides ou autres fait qu'on a une disparition des insectes. Et ben, y a des conséquences dans tout ça, bien évidemment. Et là, c'était une conséquence qu'on n'avait pas nécessairement anticipée ou en tout cas identifiée clairement. Mais voilà, du coup, il n'y a plus d'insectes. Et bien, les plantes font comme elles peuvent pour pouvoir survivre, tout simplement, au niveau de leur espèce. Dans le sud du Sahara, cette fois, on va parler des animaux et notamment des insectes et des combats entre les termites et les fourmis matabélées qui peuvent être sanglants. Il n'est pas rare que certaines fourmis en reviennent blessées de ces combats. Pas rare non plus que leurs plaies s'infectent. Mais des chercheurs de l'université de Würzburg en Allemagne, ils ont travaillé avec des chercheurs de l'université de Lausanne ensuite, en Suisse. Ils rapportent aujourd'hui dans la revue Nature Communications que les taux de survie restent importants grâce à une stratégie étonnante mise en place par ces drôles de fourmis. Les chercheurs ont en effet observé des fourmis en train de soigner sélectivement les plaies infectées de leurs congénères. Elles les reconnaissent grâce à des marqueurs chimiques présents sur leur corps et qui évoluent avec l'infection. Puis, elles les traitent à l'aide d'antibiotiques et de cicatrisants qui sont sécrétés par une glande située sur le côté de leur thorax. De quoi réduire de 90% le taux de mortalité des fourmis qui ont été blessées. Totalement fascinant. À l'exception des humains, je ne connais aucun autre être vivant capable de réaliser des traitements médicaux aussi sophistiqués. C'est ce qu'explique Eric Franck, le directeur de cette étude. Mais il compte tout de même le vérifier en explorant les comportements d'autres espèces d'animaux sociétaux. Des travaux sont aussi prévus pour étudier les antibiotiques qui sont utilisés par ces fourmis matabélées car le principal agent pathogène des plaies des fourmis est également une cause majeure d'infection chez les humains. Ce sont plusieurs souches de Pseudomonas aeruginosa qui sont résistantes à nos propres antibiotiques. Donc si on arrive à comprendre comment ces pauvres petites fourmis arrivent à se soigner face à ce pathogène, eh bien on pourrait peut-être essayer de les copier tout modestement, nous, grands humains, et peut-être essayer de voir un petit peu, de reproduire ce qui existe au niveau de ces insectes. C'est fascinant, bien évidemment. Allez, on va encore écouter un autre titre, et puis on va continuer à feuilleter, comme ça, la revue de presse de l'actualité scientifique. Vous écoutez Biotine sur l'antenne de Graphite. À tout de suite.
Screw. Yes.
C'était All Souls Peggy Harvey sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine, l'émission d'actualité scientifique tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite. Des chercheurs de l'université de Toronto viennent de mener la plus grande enquête mondiale sur l'addiction au smartphone, publiée dans la revue International Journal of Mental Health and Addiction. Elle concerne quand même plus de 50 000 participants de 18 à 90 ans dans 195 pays. Tout ça pour dire que quand même le nombre de personnes est assez conséquent. En tout cas, l'étude peut être intéressante au niveau des résultats. Près d'un tiers des personnes interrogées ont obtenu un score qui les classifie comme ayant un risque élevé d'addiction au smartphone. Les écrans de smartphone, qui peuvent également être source de migraines à cause de ce phénomène peu connu. Les chercheurs ont utilisé la version abrégée du questionnaire Smartphone Addiction Scale qui date de 2013 et qui comportait 10 affirmations comme par exemple « je me sens impatient et inquiet lorsque je ne tiens pas mon smartphone » ou alors « mon entourage me dit que j'utilise trop mon smartphone ». Et donc c'est des questionnaires qui ont été fournis. Les chercheurs ont découvert que les femmes obtiennent un score d'utilisation problématique plus élevé que les hommes. Un effet encore plus prononcé pour les 41 pays qui ont été, une partie des pays qui ont participé à cette étude. Selon eux, les femmes utiliseraient davantage leur smartphone pour des raisons sociales, comme la communication avec leurs proches ou les réseaux sociaux. Les résultats ont également montrer que l'addiction au smartphone est plus élevée chez les plus jeunes et diminue avec l'âge. De plus, il existe des disparités entre pays, bien évidemment, avec un niveau d'usage problématique beaucoup plus élevé en Asie du Sud-Est et moins élevé en Europe. Les chercheurs avancent l'hypothèse que ce serait dû au fait que l'adoption d'Internet est passée principalement par les smartphones en Asie du Sud-Est, alors que l'Europe l'utilisait déjà sur les ordinateurs bien avant l'arrivée des smartphones. Les chercheurs pensent également que certaines différences pourraient également être expliquées par les normes sociales, comme dans les sociétés plus collectivistes qui privilégient les connexions avec le groupe. Les chercheurs soulignent néanmoins les limites de ces données. Les smartphones sont tellement intégrés dans notre vie et même notre travail que de futures études devront être beaucoup plus nuancées. Par exemple, quelqu'un qui travaille 8 heures par jour sur les réseaux sociaux ne ressentira pas nécessairement d'effets négatifs sur sa vie. Les chercheurs comptent mener une étude sur le long terme afin de voir si les niveaux d'addiction augmentent ou se stabilisent. J'ai une petite idée, moi, sur la réponse, mais bon, on n'en sait rien. C'est la science qui nous le dira, bien évidemment. Autre addiction, la consommation de cannabis à l'adolescence qui augmente le risque de troubles cognitifs et psychiatriques comme la schizophrénie. Il y a des chercheurs américains qui en apportent de nouvelles preuves en mettant cette fois en évidence le rôle des cellules microgliales. Ce sont des cellules immunitaires spécialisées qui se trouvent au niveau du cerveau. Et donc, elles ont, il y a des effets néfastes sur le cerveau avec le composé actif du cannabis qui est le THC. À l'adolescence, ces cellules sont essentielles à la maturation du cerveau liée aux fonctions sociales et cognitives. Et donc les chercheurs estiment que les changements structurels qui interfèrent avec ces cellules peuvent altérer le câblage du cerveau encore en développement chez les adolescents. Et on a fait des essais sur des souris adolescentes génétiquement modifiées, pour justement présenter un risque de troubles psychiatriques. Et elles ont reçu pendant 30 jours soit une injection de THC, donc ce composé actif du cannabis, soit une solution salée qui sert un petit peu de témoin. Et à titre de comparaison, des souris normales ont bénéficié du même traitement. On fait l'expérience et après 3 semaines de repos, des tests de comportements psychosociaux ont révélé que l'exposition au THC à l'adolescence produit une apoptose. Une apoptose, c'est une mort cellulaire programmée et donc la mort de ces fameuses cellules microgliales au niveau du cerveau. En outre, le phénomène était exacerbé par la prédisposition génétique, c'est-à-dire que les souris qui étaient génétiquement modifiées, elles ont eu justement encore plus une prédisposition à avoir des comportements qui ont été totalement mesurés et qui montrent justement des réactions beaucoup plus inquiétantes. Les résultats de la recherche publiée dans la revue Nature Communication et menée sur des souris génétiquement modifiées ne peuvent pas être appliqués, bien sûr, directement à ce qui se passe dans le cerveau humain, bien évidemment. Mais il n'empêche que les études sur les animaux suggèrent que la consommation de cannabis pendant l'adolescence peut avoir des effets négatifs et durables. C'est ce qu'explique Atushi Kimaya, qui est professeur de psychiatrie et de sciences du comportement à la faculté de médecine de l'université Johns Hopkins aux États-Unis. D'autres recherches sont nécessaires, nous dit-il, mais nous conseillons vivement aux adolescents de faire preuve de prudence lorsqu'ils consomment du cannabis. Alors, je serais tenté de dire que ce genre d'information, on le savait un petit peu déjà, parce qu'on avait déjà eu quelques articles qui avaient pu expliquer qu'on constatait, on va dire, parce que c'est toujours difficile en fait, on constate des, quelques résultats suite à une condition de départ. C'est-à-dire que la grande difficulté, c'est qu'on n'a pas nécessairement de révélation sur le lien de cause à effet. On ne sait pas en clair ce qui se passe. Sauf qu'on voit, on constate, voilà, statistiquement des résultats qui sont assez inquiétant, on va dire. On écoute un dernier titre et on se dit au revoir. C'est Jana Dodge, d'ailleurs, qui nous dit au revoir sur Antenne Graphite.
Ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est pas la fin. Je ne mentirai pas, tout ne va pas bien, mais ce n'est qu'un au revoir, au moins jusqu'à demain. Je ne te l'apprends pas, le contraire de tout n'est pas rien. Je sais.
Yeah.
Elle le dit presque à ma place, hein. Jeanne Haddad avec Au revoir sur l'antenne de Graphite. Vous avez écouté Biotine, l'émission d'actualité scientifique sur l'antenne de Graphite. Je vous laisse, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. On se retrouvera bien sûr sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Je vous souhaite une bonne journée, vous restez fidèles à l'ensemble des émissions de Graphite et on se retrouve samedi prochain. À bientôt, merci, au revoir. Au revoir.